Et bien voilà, ouais.
Il y en a qui sont équipés, hein.
Les Chiliens en force.
Oui. C'est comme on l'a... On la liquera à l'offre du stylo qui marche pas. Ah si, c'est une mauvaise langue. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est dans un autre débat, il est...
Non, non, on m'a dit qu'il serait amené directement par son service.
Ah, faut avoir envie, hein. Ça, c'est à vous, ça?
Non, non.
Non, non. Ah, bah voilà.
Vas-y.
Ah, bah voilà. Sans les lunettes, hein, ça serait bien. Tiens, bah, si t'en veux un peu. Voilà. Sinon, on ne va pas être opérationnel. Hein, donc, Oui, oui, c'est ça. On est équipé, là.
Ouais, donc je pense qu'il y a des larves de moustiques à l'intérieur, Manu.
Ah, ouais.
Bon.
Il arrive là.
Pour l'instant, il peut encore être à l'heure.
Ah oui.
15h59. Bon, c'est l'exactitude et la politesse des imams.
Ah, ça commence. Et voilà.
Et voilà. Et bien voilà, l'exactitude. Pile poil.
Et ça un peu.
Merci. Bon, on va pouvoir commencer cette rencontre avec deux invités très intéressants. Je remercie d'être avec nous, d'avoir la chance de les avoir avec nous aujourd'hui, Zora Bidan, les auditeurs des Grandes Gueules sur RMC vous connaissent bien. D'ailleurs, votre livre est signé « Une Grande Gueule Made in France », fille d'immigrés algériens. Vous avez écrit notamment aussi d'autres ouvrages dans cette gauche qui nous désintègre. Il est possible que vous avez été aussi la porte-parole de Manuel Valls à la primaire du PS. Vous avez été aussi à l'origine de la publication du livre « Je suis Mila, je suis Charlie, nous sommes la République ». Vous êtes donc parfaite pour cette conférence sur le thème de la laïcité et de la liberté d'expression. À nos côtés aussi, et je l'en remercie, Hassan Chalgoumi, vous êtes imam. Vos prises de position sont parfois, souvent, toujours contestées, on va dire souvent. La dernière en date, c'était sur le voile et le sport. Il y a peut-être eu d'autres hein, depuis. Mais... Et en tout cas, vous êtes souvent l'objet de menaces. Vous luttez contre l'intégrisme islamiste et vous défendez les valeurs de la République. D'ailleurs, votre livre... Ah, on avait inverti que le micro. On est... Les combats d'un imam de la République. Vous pouvez, bien évidemment, vous le procurer. Alors bon, en examinant la thématique de cette table ronde, alors, on va... Ça va se dérouler, on va examiner la laïcité, la liberté d'expression, et j'aimerais aussi pouvoir vous donner la parole si vous avez des questions, des remarques à poser aussi bien à l'un ou à l'autre des invités. Alors quand on regarde la laïcité, c'est un principe tout simple dont la définition réside souvent en une seule phrase, et on se demande toujours depuis à la fin des années 80 pourquoi ce principe qui, quand on le lit, est très simple, peut nous apparaître très facile à mettre en place, pourquoi il fait couler autant d'encre depuis la fin des années 80. Est-ce que le retour du religieux suffit à expliquer le fait qu'on en débat, presque à l'infini, je dirais. Alors, qui veut commencer? Allez-y.
Bonjour à tous et rebonjour à ceux qui étaient au débat précédent. Oui, la laïcité fait débat. Alors, je dis toujours que être musulman en France, ça date pas des années 80. Moi, mes parents étaient déjà là en 1963. Ils étaient musulmans et pour autant, on traversait pas la période qu'on vit aujourd'hui. En fait, c'est pas la loi de 1905 qui est remise en cause et c'est pas la loi de 1905 qui serait éventuellement pas comprise. Ça, c'est l'arnaque totale. Et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que on est dans une société où le religieux n'avait plus de visibilité, et en tout cas le religieux avait été relégué dans une France anticléricale qui avait dit aux curés que leurs lois, ils pouvaient les garder dans leur enceinte et que les lois de la République primeraient sur les lois divines. Et ce que la société française a pas vu venir et ce qu'elle a pas vu se construire, c'est que dans la génération de mes parents, qui avaient un islam, on va dire, intime et intimiste dans leur vie, qu'ils nous enseignaient à nous aussi, ils avaient pour souci, pour nous, que nous devenions français, en fait, avec quelques adaptations, c'est-à-dire on mangeait pas de porc à l'école, le halal, on pouvait se débrouiller avec, mais en tous les cas, notre foi, c'était pas leur priorité. Leur priorité, c'était que nous vivions bien, que nous puissions trouver notre place dans cette société et que nous puissions y vivre pleinement en étant intégrés. Manque de peau, la République, elle a un peu foiré pas mal de choses. C'est pour ça que j'ai écrit cette gauche qui nous désintègre. Et j'ai toute la légitimité pour le faire, puisque j'étais aux avant-postes de toutes les politiques publiques en direction des quartiers et des populations immigrées. Donc, j'ai rien inventé, et certainement pas à partir de mon histoire avec laquelle j'ai pris beaucoup de distance en termes sociologiques, mais pour expliquer que les politiques publiques ont quand même pas aidé à ce que cette intégration soit réussie, et j'ai eu quelques exemples très précis à donner. À une époque où on aurait dû appeler les éducateurs, on a appelé les imams, parce qu'on considérait que les ghettos, avec les dérives que ça pouvait engendrer, et c'était logique, et ben il y avait que le religieux qui pouvait y porter secours. Et j'ai vu toute cette montée en puissance de l'intégration du religieux dans le politique, qui le politique s'en est servi, parce qu'il avait l'incapacité de gérer la question à la fois sociale, la question des ghettos, la question du racisme, la question de l'exclusion territoriale, la question de ce qu'avait appelé Manuel Valls l'apartheid sociale, etc. Et donc, forcément, quand il y a du vide, quand la République est reléguée au fin fond des cartons, et quand le drapeau national et quand le patriotisme, on a laissé les clés au Rassemblement national, ce qui était à l'époque le FN, faut pas s'étonner que la nature a horreur du vide et que le religieux ait pu prendre autant de place. Donc le problème, c'est pas la laïcité, c'est l'émergence dans la société de citoyens qui estiment que, en tant que citoyens français, leur foi visible dans la société, ça pose pas de problème. Sauf que juridiquement, effectivement, ça pose pas de problème. On a le droit d'être religieux dans la rue. Personne ne vous en empêche, ni les textes, ni la loi. Mais il n'empêche que dans un pays où on sait que les codes divins et que le religieux peut modifier les codes sociaux collectifs, ça crispe tout le monde, parce que les revendications, on sait très bien qu'au départ, on demande pas grand chose. Et puis qu'ensuite on commence à grignoter du terrain. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qui exaspère les gens. C'est cette omniprésence et cette visibilité revendicative d'un islam conquérant et politique qui a pour vocation de modifier des codes sociaux, et des codes sociaux qui ne nous appartiennent pas et qui font pas partie de notre référence historique et de notre histoire nationale. Et donc c'est pas la laïcité qui est remise en cause. Ils aimeraient, et beaucoup de religieux, d'ailleurs pas forcément que de l'islam, on voit bien comment certains voudraient remettre en cause l'IVG, ils aimeraient bien tous ces bigots, essayer de faire en sorte de trouver des sorties et puis d'intégrer un peu la visibilité et de la bigoterie un peu partout. Donc c'est ça le souci, c'est de trouver le juste équilibre entre ne pas mener des inquisitions absolument insupportables auprès d'une population qui fait partie de la communauté nationale, tout en luttant contre des gens dont les calculs sont bien huilés et qui a pour vocation d'essayer justement de propager des idéologies qui n'ont rien à faire dans notre pays. Donc voilà, c'est, la laïcité, c'est ce combat-là. C'est un combat juste. C'est un combat qu'il faut toujours garder, serein et en même temps pas céder au populisme, pas céder, garder le cap, rester républicain et universaliste, rester fraternel et solidaire, rester respectueux des croyants et des pratiquants, puisque c'est ça la laïcité, tout en continuant à lutter contre tous ces extrémistes qui essayent d'utiliser des religions à des fins à la fois politiques et puis à la fois sectaires, parce que c'est aussi ça le danger, c'est toutes les dérives sectaires de codes dont on n'a pas envie de voir émerger dans la société. Donc voilà un petit peu mon point de vue sur la question.
Merci. Et non, Hassem Chaghoumi, la laïcité n'est pas islamophobe comme certains voudraient nous le faire croire.
Merci. Tout d'abord, je remercie énormément l'ECRA. J'ai eu la chance, il y a quelques minutes, j'ai visité le château de Madame Joséphine Becker. Et je peux vous dire, comme un homme de foi, il vient de visiter un lieu saint pour avoir plus de force. Elle m'a donné de la force, cette femme. Incroyable. J'ai vu autant d'enfants, 12 enfants, toute confession. Elle rêve d'une société multiculturelle, tout le monde. J'ai vu aussi un sous-sol qui était l'endroit où elle a protégé des rescapés. Elle a protégé des juifs. J'ai vu un endroit aussi où il y a eu la résistance contre les nazis, contre les personnes qui attaquent sa nation. J'ai vu aussi cette femme qui est partie aux États-Unis, qu'elle a déjà un rêve, mais en sachant, paix à son âme, quelques décennies après, il y avait un président afro-américain, elle n'a pas vu son rêve, mais il s'est réalisé son rêve. Moi, je pense que cette femme, paix à son âme, aujourd'hui, ma présence autant qu'il m'aime de Drancy. J'habite pas trop loin d'avenue Jean Jaurès. Cette avenue, si vous le prenez, entre la mosquée et ma maison, à droite, il y avait le wagon. 172 numéro exactement. Ce wagon, il nous rappelle tous d'une histoire. Et cette histoire de plus que 70 000 juifs français déportés de cette ville. Souvent, mes enfants, quand ils étaient petits, ils me posent la question. Papa, pourquoi il y a ce wagon? Ils sont où les voyageurs? Pourquoi on voit personne? Mais quand ils ont grandi, j'ai parlé. Qu'il y avait des enfants, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Mais ils ne sont plus là. Juste leur mémoire, elle est là. Témoignage. Je trouve que j'ai un livre, il vient de sortir, « Libérons l'islam de l'islamisme ». Et dans le titre, « La laïcité, c'est une chance pour les musulmans ». Oui, c'est grâce à la laïcité, elle nous permet de croire ou de ne pas croire. Grâce à la laïcité, il existe l'imam Chaghoumi. Grâce à cette laïcité, absolument, 2400 lieux de prière. Cette laïcité, elle ne sépare pas l'individu. Je l'exprime souvent au monde arabe, aux musulmans. Parce que certains fanatiques essaient de dire que la laïcité était faite pour les musulmans. Je dis, oh mon Dieu, la laïcité a existé depuis 1905. C'est exactement le 9 décembre, quand il y a eu la décision. Et comme elle a dit, chère Zora, elle est venue voir l'église et elle a dit, stop. Qu'est-ce qu'il y a à César, adieu, adieu. Elle dit la même chose à tout le monde. Mais elle donne la liberté à chacun de croire ou de ne pas croire. Cette laïcité, elle nous protège, nous, les minorités. Ils savent très, très bien. Et cette laïcité, que je l'espère, par mes moyens, mes prêches, par mes discours sur les chaînes arabes, de lui dire que c'est la solution chez vous, pour que les fanatiques, les extrêmes, cette idéologie, regardez cette laïcité, c'est un rêve, la solution pour l'Iran, c'est un rêve pour l'Afghanistan, c'est un rêve pour tous les pays, malheureusement, qui préparent l'endoctrine. Je pense que la laïcité, c'est une chance, elle protège. Mais en même temps, c'est triste de voir. La laïcité, à certains moments, elle est devenue une lâcheté. On laisse des ingérences étrangères. Vous avez une puissance turque, 500 mosquées gérées par la Turquie. Vous voyez même Qatar, même certaines puissances à l'étranger. Je pense qu'on peut critiquer des personnes, des pouvoirs qui essaient d'utiliser les moyens de la République à des fins politiques ou extrêmes. Pareil, il faut avoir cette fermeté face à l'ingérence étrangère, face à les sectes. Ce sont des sectes, cette minorité. Minorité, on va dire, cette pratique, frérisme, l'islam politique ou d'autres. Aussi, il faut qu'on fasse sortir le ghetto de cette jeunesse que sont des victimes. Parce qu'ils fantasment certains bleds, mais ils n'ont jamais voyagé. Allez à l'ailleurs, vous ne trouvez jamais l'égalité hommes et femmes. Vous ne trouvez jamais le droit de sol. Vous ne trouvez jamais le droit, l'accès à l'école. Cette liberté, je pense que ça c'est très important, que cette jeunesse sache très bien que cette laïcité, elle est là pour mettre la liberté de chacun, sauf malheureusement quand ça rentre dans des sectes, quand ça rentre, prend en otage, surtout les femmes. Oui, j'ai parlé il y a quelques jours, question de voile. Voilà. Il résume 14 siècles de l'islam pour un bout de tissu sur le visage. Ce n'est pas l'islam. Elle connaissait très bien Zohra et toute sa famille, l'islam. L'islam, 14 siècles, de Maroc jusqu'à l'Indonésie. Vous trouvez des pratiques différentes, mais vous trouvez quand même l'égalité. Vous savez, j'ai l'honneur, je suis d'origine tunisienne. La femme tunisienne, elle a eu le droit de voter avant la femme française. Ça, c'est une fierté de le dire. Bourguiba, paix à son âme, le fondateur de la République tunisienne, c'est une république. Une fois, vous rappelez-vous de ce beau geste quand il est venu voir une femme, elle tient un voile, il l'a fait comme ça, elle a dit plus belle que ça. Je pense que si on donne ça, en même temps, aux parents, aux imams, d'éclairer cette jeunesse. Jeunesse manque de repères, ignorant de la religion, de lui dire, il y a des habits pour l'école, il y a des habits aussi pour la mosquée, il y a des habits pour le sport. Et grâce à ce dialogue, grâce aussi à cet engagement de certains, on peut sauver beaucoup de vies.
Alors malgré tout, on sent qu'il y a des percées à chaque fois dans l'actualité. Alors hier, on parlait de l'abaya. La semaine dernière, c'était des prières d'écoliers niçois dans la cour. Voilà. Et l'actualité fait preuve d'imagination parce qu'à chaque fois, hop, on remet un sou dans la machine. Est-ce que vous parliez tout à l'heure, Zohra, du recul du politique ou une forme de lâcheté? Est-ce que quand on assiste à ce genre de débat, le politique remplit tout son rôle?
Ben, je crois qu'on a deux problématiques, à la fois le politique et le médiatique. En fait, pour être sur le terrain et voir beaucoup de jeunes, les questions de foi et les questions de religion sont, pour les trois quarts, beaucoup de questions identitaires. De qui je suis, il faut quand même que vous sachiez que les cultures maghrébines et cultures musulmanes sont des cultures fortes, puissantes, des assignations identitaires où on ne sort pas de là-dedans comme ça, on est assigné, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de choisir son identité en étant adulte. Je vais vous donner un exemple, vous êtes italien et vous vous installez en France, vous êtes brésilien, vous vous installez en Argentine, 60 ans après, vous êtes ce que vous voulez. Quand on est maghrébin et musulman, on l'est à vie partout. Donc ça veut dire que s'extraire de cette condition identitaire et de cette assignation identitaire est déjà une problématique, c'est déjà une haute trahison. Donc le politique, il a échoué sur la question sociale, il a échoué sur la question de la mixité, il a échoué sur la question des territoires, il a échoué sur la question de l'antiracisme, il a échoué sur la promesse d'égalité. Et on le sait, les chiffres parlent d'eux-mêmes, zone urbaine sensible, 1500 en France, on continue d'empiler des migrants dans des ghettos, on continue des politiques publiques qui discriminent, on continue à pas ouvrir les conservatoires à des enfants des quartiers, on continue... C'est-à-dire que rien n'a changé, moi j'ai écrit cette gauche qui nous désintègre en 2014, on permet pas à des enfants d'aimer la culture, le beau, l'art, la littérature, on pratique encore des politiques publiques qui assignent socialement, et c'est pareil pour la ruralité. Donc à partir de là, le politique, il vous vend des conséquences sociales de ses propres choix politiques, et c'est ça qui est quand même un petit peu embêtant. Et donc la abaya, par exemple, qui est une tenue vestimentaire qui s'est fait approprier comme tenue religieuse, mais qui ne l'est pas vraiment au départ, mais c'est pas grave, n'empêche qu'elle a, pour ces jeunes filles, la signification religieuse. Forcément, il y a je ne sais plus combien de millions d'élèves, ça représente 0,1%. Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il ne faut pas en parler? Est-ce qu'il faut être ferme? Est-ce qu'il faut médiatiquement parler du sujet? Mais en tous les cas, moi, je constate une chose, c'est qu'entre le discours politico-médiatique et entre le terrain, il y a un monde, un fossé, un abîme absolument extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de ces problématiques qui sont réelles, qu'on ne peut pas minorer, et l'imam Chalgoumi le dit, c'est un danger cet islam politique conquérant, toutes les vraies questions des causes sont complètement occultées et qui ramasse la mise au passage, ce sont toutes les extrêmes. L'extrême droite, elle est dans les buissons, elle ramasse et elle attend. Et à chaque fois qu'on évoque ces problématiques-là, elle est là et elle ramasse. Ce qu'elle constate, on peut le constater nous aussi. Il ne s'agit pas de dire que ce qu'elle voit, on ne le voit pas. Le problème, c'est quelle réponse politique on a derrière. Comment on tire le son, justement, de la promesse républicaine qui est arrivée, c'est vrai, mais qui est pas encore assez puissante. Comment, comme dit l'imam Chalgoumi, on raconte une autre histoire. Comment on permet à des enfants de se projeter, d'avoir des ambitions, de sortir des ghettos. Vous savez très bien, casser les ghettos, combien de fois vous l'avez entendu en politique. Est-ce que ça a eu lieu un jour? Ça n'a jamais eu lieu. Donc à partir du moment où en face, on ne met pas les politiques publiques, je ne dis pas que l'islam politique est lié aux politiques publiques, n'empêche qu'il a trouvé une entrée, il a trouvé un vide dans lequel il se fourvoie. Pour avoir vu des jeunes filles en abaya dans des actions que j'ai menées, des filles, jeunes filles adorables avec qui effectivement c'est très compliqué d'exclure, ou en tout cas, mais il faut avoir beaucoup de pédagogie et d'écoute, je peux vous dire qu'il y a de l'espoir chez ces jeunes. Il y a une attente de main tendue. Il y a une attente de... La promesse républicaine, ils l'attendent dans chacun d'entre nous. Si on tend la main, ils sont là. Mais si on ne le fait pas, si on passe notre temps justement à monter en épingle un certain nombre de phénomènes, vous savez ce qu'ils leur disent en face ? Regardez, vous avez vu ? Ils ne vous aiment pas. Regardez, ils vous ont vu, ils vous avaient vu. Et derrière, l'islam politique est rodé. Il vit, en fait, c'est tout ça est auto-alimenté. Et moi, mon attente, elle est encore puissante et encore criante, c'est sur le terrain. Il y a beaucoup de gens dans les salons, mais il y a très peu de gens sur le terrain. Il y a très peu de gens qui fabriquent des citoyens de demain. Il y a très peu de gens. Aucun jeune vous dira « je veux pas des droits de l'homme, je veux pas de la République, je veux pas des valeurs de laïcité qui m'émancipent, je veux pas de valeurs qui me permettent à moi d'être pratiquant sans qu'on m'embête ». Aucun, sauf une toute petite minorité endoctrinée. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue justement à porter un discours de conséquence ou est-ce qu'on commence à clamer haut et fort qu'il va falloir un diagnostic par des républicains universalistes, un diagnostic honnête, sérieux, avec des solutions à la hauteur de nos valeurs ? C'est ça qui est important. On est en train de laisser à la fois l'espace aux sectaires intégristes religieux et à la fois aux populistes de tous bords. Et il est là notre problème. C'est qu'une fois qu'on a médiatisé, qu'on a monté en épingle, on n'a toujours pas répondu aux questions et le politique est bien arrangé de faire du bruit. Ça lui évite justement de travailler en profondeur sur ces questions-là. Et Abaya en est une preuve puisque Pape Ndiaye a pris la décision de dire que chaque établissement devait gérer sa salade, il se débrouille et puis il fait avec. Voilà, vous voyez où on en est, c'est-à-dire que la République n'est même pas capable d'affirmer haut et fort que tout signe religieux est interdit, point barre. Ça, c'est du courage. Et le courage, on peut dire qu'aujourd'hui, on parle de Joséphine Baker, femme puissante, courageuse, exemplaire, et aujourd'hui, il nous manque le courage, c'est ça.
Pourtant, il y a une loi, hein, 15 mars 2004, dans les établissements scolaires. Alors, on ne l'applique pas ?
Vous savez, deux fois, je peux dire que Dieu nous a créés libres. Et la liberté sacrée, ça, si on peut douter, elle est sacrée. Ça mérite tout ce combat-là. En sachant ce peuple, je parle le peuple français qui m'a adopté, ma femme, elle est née ici, ma belle-mère, paix à son âme aussi, pareil. Nos débats ne sont pas des débats stériles. On arrête de dire « Oui, mais ça sert à quoi ces débats ?» Mais le monde, il nous regarde. En sachant, dès qu'on parle d'une chose, le monde, il commence à bouger. En Turquie, il commence à nous menacer. En Afghanistan, en Iran, tous les fous furieux de la Terre, ils commencent à bouger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire nous sommes regardés. Nous sommes un exemple. Le peuple de lumière, il reste ce siècle de lumière dans les gènes et dans l'avenir. Je pense qu'il ne faut pas céder. Dès qu'on a parlé question de voile intégral, ça bougeait partout. Moi, le jour 2009-2010, je commençais à faire des débats sur le voile intégral. J'ai dit c'est en prison pour les femmes. J'ai eu des centaines de mails des femmes saoudiennes qui me soutiennent. Et j'ai eu une centaine des Français, de jeunes musulmans, devant la mosquée, ils manifestent contre moi. Collectif Chirassim, par exemple. Un fanatique, un foufou de Dieu, elle était devant la mosquée. Ça fait que, voilà, on fait bouger le monde. Oui, croyez-moi. Dès qu'on fait des débats, le monde y réagit. Dans ce cas-là, et bravo, qu'est-ce qu'elle a dit, chère Zora. On a besoin d'engagement et de courage. Si tout le monde, on est là, dans ce site-là, dans ce lieu-là, le symbole aussi de cette femme, si on ne s'engage pas, la majorité silencieuse. J'étais à Prague pour rendre hommage aux musiciens déportés. J'ai trouvé un rescapé, un rabbin. Avec un Américain, ils parlent les deux. L'Américain, il a dit « sorry ». Il a dit « ça y est, on s'est pardonné, on s'est vu ». Il a dit « parce que je suis arrivé en retard, si je suis, on en rentrait deux jours avant, j'ai déjà sauvé vos parents ». Mais le rabbin, il était seul, enfant. Et ce jour-là, le rabbin, il a dit « les nazis n'étaient pas nombreux ». Les fachos, pardonnez-moi, ils étaient nombreux. Les islamistes ne sont pas nombreux. Les extrêmes ne sont pas nombreux, mais la majorité, c'était silencieuse, indifférente. Aujourd'hui, la même chose. Aujourd'hui, on dit non. L'école, moi, ma réussite en tant que père, je suis fier. Aujourd'hui, mon fils, il a eu son bac. Je suis content. Merci, Khalid, merci. Et c'est le dernier, là, ils sont tous dans l'université maintenant. Ma fierté, que nos enfants aient réussi. Est-ce que vous voulez un père de trois filles? J'ai trois filles, trois princesses. Que je dis à mes filles, est-ce que la priorité, le voile? Est-ce que la priorité est le mariage? Non. Si vous êtes, vous avez vos diplômes, vous serez une femme forte. Vous allez aider le futur mari, on ne sait pas qui, quand et comment. Mais vous avez, imaginez même pas, vous avez bac. Vous serez soumise sous un homme qui peut-être ne respecte rien. À la fin, souvent, 16 ans, 15 ans, j'ai vu plein de cas. Voile, décrochage scolaire, 18 ans marié avec n'importe qui, 20 ans un enfant, 21 ans divorcé. Il a deux gosses, trois gosses. Après, elle rejette totalement la religion. Elle passe à l'extrême. Et ses enfants, vous avez le cas, Mira, Kouachi, Kolabali, Medina Mouche. Je pense que l'école, c'est la première, le premier représentant de l'État, de la République. Si on arrive à fermer, on dit non pour tout le monde, non, on ne cède pas, non, venez comme tout le monde, mais habillé de cette manière, ça, c'est vous, il faut voir le courage de dire non.
Alors, après la tragédie et l'assassinat de Samuel Paty, l'éducation nationale s'est-elle réveillée? A-t-elle mis en place des... Notamment, bon, on nous a dit qu'il y avait des cours sur la laïcité dispensés dans les établissements. Est-ce que vous avez pu constater ça, Zora?
Je ne suis pas enseignante, mais il faudrait peut-être que j'aille un peu leur donner quelques cours. Parce que moi, j'explique la laïcité à des jeunes. Et c'est quand même surprenant, parce qu'avec moi, ils comprennent très bien. Et pourtant, je suis ni historienne et je suis pas une spécialiste de la laïcité. Mais vraiment, j'arrive pas à comprendre comment on peut ne pas être dans l'enseignement et arriver à expliquer des choses très simples à des jeunes qui vous disent, bah, finalement, j'ai compris. Et que l'éducation nationale nous explique que tout est toujours très compliqué. C'est toujours très compliqué pour eux. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais c'est très compliqué. Moi, la laïcité, je leur explique la chose le plus simplement du monde. Je leur dis, voilà, je t'explique. Dans ce pays, la loi de 1905, elle est née parce que la République a décidé de dire aux curés de rentrer dans leurs églises avec leur code. Et donc, c'est plus eux qui faisaient la loi et c'est plus eux qui décidaient de la vie de chacun dans cette société. Donc, quand la République a fait en sorte qu'il y ait la loi 1905, la séparation de l'Église et de l'État, les citoyens dans ce pays se sont dit « ouf ». Ce ne sont plus les lois de Dieu qui vont gérer nos vies, mais les lois des hommes. Et là, les jeunes, tout à coup, me disent « oui, et alors ?» Alors, je vous explique, de 1905 à jusqu'à maintenant, les Français étaient habitués à ce que les bonnes sœurs soient chez elles, que l'Église, chacun y va le dimanche, il en a envie, que ceux qui veulent prier chez eux, aller dans une mosquée, ils y vont, mais en tous les cas... Ça commande pas et ça décide de rien. L'IVG, c'est un droit. L'homosexualité, chacun fait sa vie. Le mariage gay, etc. On fait ce qu'on veut. Ce sont nous, les humains, qui décidons de la société qu'on veut. Donc, vous, les jeunes, vous comprendrez que dans un pays où les gens ont été habitués à plus voir justement de frontières entre celle qui est pudique et impudique, parce que vous m'excuserez, quand tu portes un voile, c'est que par miroir, l'autre, elle est à poil. C'est en France, c'est ce que tu es en train de m'expliquer. Donc, or, dans ce pays, on met des shorts, on va à la plage en bikini, en string, en monokini, ça fait partie de la culture de ce pays. Donc, quand on voit débarquer de la bigoterie qui exige et qui demande de vivre dans ce pays avec des codes socio-religieux collectifs, eh ben, ça pose un problème. Donc, je leur renvoie, je dis, imagine, tu vois, dans un pays musulman, une forte population de chez nous arrive là-bas et dit, ben voilà, nous, on envahit les plages en bikini, on commence à venir dans les rues en short, etc. Qu'est-ce que tu dirais? Tu serais pas content, ce serait la même chose. Eh ben voilà, il faut respecter l'histoire de ce pays, et l'histoire de ce pays, elle n'est pas anti-islam, elle est anti-religieux. Elle a été anti-cléricale, et elle est aujourd'hui anti-religieux dans l'espace public et encore pire dans l'école. Et l'école, c'est le sanctuaire. Et je leur fais par exemple l'histoire de l'entreprise. Quand ils disent « oui, mais on ne veut pas nous embaucher parce qu'on a des signes religieux », je leur donne le rôle d'un chef d'entreprise à chacun. Et je leur dis comment vous gérez dans votre entreprise le fait que les religions sont présentes, visibles, et on peut les voir dans chacun de vos employés. Et tous à l'unanimité me disent « oh non, non, ça serait trop le bordel ». Voilà. Donc en fait, il faut toujours, toujours les renvoyer vers eux en leur expliquant l'histoire et en leur demandant s'ils seraient d'accord pour qu'un certain nombre de choses leur soient appliquées et les mettre en situation. La laïcité, c'est concret, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est vraiment quelque chose, comme disait l'imam Chalgoumi, ça protège. Et une fois qu'ils ont compris... Et en fait, il y a des exemples. Est-ce que quelqu'un t'empêche de faire le ramadan? Non. Est-ce que quelqu'un t'empêche de ne pas manger de porc? Non. Est-ce que quelqu'un t'empêche de prier? Non. Alors, où est le problème? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que dans la loi, on supprime le mariage pour tous? Tu veux que dans la loi, on supprime l'IVG parce que dans ta religion, c'est interdit? Tu veux tout ça? Eh bien, c'est impossible. Tu ne changeras pas nos codes sociaux. Donc, c'est soit... Tu fais comme un certain nombre de gens qui considèrent que la puissance de leur foi est incompatible avec le territoire dans lequel ils évoluent, et ils ont raison, et c'est très sain, et ils partent là où ils peuvent s'épanouir. Sinon, tu adoptes les codes sociaux et tes codes intimes, ils sont complètement libres, personne t'interdit. Donc, où est le problème? Où est le problème? Le problème du voile? Oui, c'est un problème. C'est un problème. Moi, je leur dis ouvertement que ça me pose un problème en visibilité, pas en juridique. Pourquoi? Parce qu'il induit l'idée qu'une femme doit se couvrir du regard des hommes parce que les hommes seraient supposés incapables de contrôler des pulsions sexuelles ou des jeux de séduction. Et là, je leur explique que dans ce pays, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas et qu'une femme en robe n'est pas une femme disponible. Une femme en short n'est pas un objet disponible à n'importe quel homme. Ça fait partie de la culture. Et que si ça les gêne, ici, on ne couvre pas les femmes. Et c'est une atteinte à la dignité humaine que de couvrir des femmes pour protéger des hommes de ce qu'ils sont. Non, moi, je préfère qu'on éduque les hommes à vivre au milieu des femmes libres et qui choisissent elles-mêmes dans la manière dont elles s'habillent. Le voile n'est pas une liberté, le voile est une contrainte, et le voile est une soumission à des codes sociaux qui épargnent les hommes d'être un minimum éduqués à l'égard des femmes. Voilà un peu la laïcité, j'allais dire hors scolaire, comme je peux l'expliquer à des jeunes.
Vous savez, si toutes les femmes françaises musulmanes ne s'engagent comme elles, on va éviter des générations. Parce que le rôle des parents, c'est très important, surtout la femme. En Saint-Saint-Denis, on a énormément de femmes isolées. Et cette jeunesse, malheureusement, l'absence de père, on a les dégâts, malheureusement. Récupération, il y en a, malheureusement. Et bravo encore.
Alors, vous dites, on va éviter des générations. Est-ce que vous, vous projetez quoi? À moyen, long terme pour réussir le combat que vous menez? Et quels sont les gens qui vous aident dans ce combat?
Vous savez, c'est vous. C'est vous le premier soutien. Je le dis sincèrement, je le répète. 2014, j'ai aidé la comité Nobel pour que la Tunisie, que ce beau pays que je l'aime, c'est un héritage, je le garde. Jamais la France ne m'a demandé de nier mes origines ni ma religion. Je le dis tout le temps à mes enfants. Mais soyons fiers d'être français. La patrie, l'amour de la patrie, c'est une partie de ma foi. Aimer cette terre sacrée, ces hommes et ces femmes qu'ils ont donnés, et ces hommes et ces femmes qu'ils ont sacrifiés par jour pendant la Deuxième Guerre mondiale, 50 000 morts pour avoir cette liberté, pour avoir cette sécurité. Je pense que, cher ami, ce peuple, je le dis, je le répète, ce peuple mérite le prix Nobel de la paix, oui. Comme la Tunisie en 2015, ils ont eu le prix Nobel de la paix, raison le printemps arabe et les élections, mais à la fin, c'est terminé par les islamistes, malheureusement. Ce peuple, il n'a pas cédé à la peur des islamistes. 288 morts, Nice, Bataclan, Toulouse, ailleurs. Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent ces extrêmes? De nous pousser à l'extrême, de nous diviser. Et comme il a dit, cher Zora, c'est pas l'extrême qu'on va gagner. Sinon, on perd nos valeurs. Si on devient barbare comme eux, c'est eux qu'ils ont gagné. Si nous divisent, guerre civile, c'est eux qu'ils ont gagné. Si on bascule vers un discours de l'extrême droite, de la peur, non. Réaliste, oui. Un discours sincère, réel, responsable, oui, je l'admire, ça. Et aussi un discours d'extrême gauche, victimaire. Parce que c'est eux, vous savez, le pire d'éduquer un enfant dans une ambiance, environnement victimaire. Il est victime de son père, il est victime de la société, passé colonial, les sionistes, Israël, tout ça. À la fin, et à l'intérieur, il a un moteur, parce que la victimisation, le discours victimaire, c'est le terrain, c'est le, pardonnez-moi, le plateforme qui prépare le djihadisme, qui prépare la haine. Il passe à la vengeance, il a un désir de vengeance, vous le voyez. Mira, 21 ans, Kouachi, Koulibaly, Medina Mouche, tous ces fanatiques extrémistes, ils sont nés en France, une vérité. 2400 personnes, ils sont partis en Syrie et en Irak. La majorité sont nés en France. C'est quoi la solution pour moi? Trois choses, résumé. La première, c'est l'éducation. Surtout les parents. Et la première école. Il faut qu'ils retournent, qu'ils abandonnent, qu'ils baissent leurs bras, qu'ils laissent leurs enfants. Il faut que la société, quel que soit le conseil régional, la préfecture, les politiques, ils donnent plus de responsabilités aux parents d'aller, de l'aider. L'éducation, l'école, ça c'est la seule chose qu'on peut sauver. Ça, c'est l'éducation, comment on peut changer. La deuxième, il faut qu'on lutte contre les discours religieux haineux. Ça, khlas en arabe, ça veut dire basta. Ça y est, on arrête. On ne peut pas accepter un discours haineux. Ce discours-là, il faut le changer. Il faut remettre. Il faut qu'il y ait une référence théologique en France. Il faut que la formation des imams en France. Il faut qu'on stoppe cette ingérence étrangère. Les musulmans de France ne sont pas en otage. Ce n'est pas une marchandise à être une carte de pression par les Turcs, par les islamistes, par les fanatiques. Non, il y a un moment où il y a la souveraineté d'État de dire stop. Il y a un islam de France, comme il y avait le consistoire. Nous, je rêve d'un Napoléon, moi. Vous savez, Napoléon, il a fait le consistoire israélite. Et c'était clair. Le judaïsme israélite de France, les rabbins de France depuis deux siècles. Regardez aujourd'hui. Il y avait certains présidents, je crois qu'ils sont des Napoléons, mais jusqu'à maintenant, on verra. On va voir quand notre Napoléon. Il faut descombrer le jeu, il retourne. Et la troisième, il faut un vrai combat sur le net. Internet. Le monsieur Google, il est plus puissant. J'étais à Washington. Il y avait une conférence, il y avait le patron de Google et Twitter. Il m'a dit, monsieur l'imam, j'ai dit non, l'imam Google, il est le plus puissant que Jagomi. Vous avez, on a 2300 sites internet francophones islamistes, 46 000 tweets. C'est ça qui joue, en train de jouer. Tous ces sur TikTok, ces conférenciers, ces islamistes fanatiques, ils sont en train de jouer avec la naïveté de petites jeunes filles de 16 ou 15 ans. La pauvre, elle n'a rien vu de la vie, elle souhaite la mort. Elle veut le paradis. L'autre, elle n'a même pas 14 ans, elle souhaite marier. Et part de son corps. Ça, c'est une honte. Ça, c'est tant qu'on ne mène pas un vrai combat sur le net. Voilà les trois solutions pour moi.
Alors, à l'issue de ce que vous avez entendu, vous avez peut-être des questions à poser. Oui.
J'en ai une. J'ai entendu tout votre discours que je partage pour grosse partie, mais j'ai pas entendu de choses précises, par exemple, sur comment activer la curiosité chez les enfants pour développer leur esprit critique. Il me semble que si l'esprit critique est développé plus qu'il ne l'est chez les enfants, par ceux qui les entourent, les parents, l'éducation nationale, etc.,
je voudrais votre avis là-dessus. C'est... L'éducation nationale.
Oui, oui, on revient à l'éducation nationale, mais il n'y a pas que... Il n'y a pas que l'éducation nationale. J'ai l'habitude de dire que finalement, une société, on l'a fait tous ensemble, en fait. On en est tous responsables et face aux défis qu'on a en face de nous, finalement, on devrait, nous adultes, tous être un acteur de l'éducation partout où l'on est. Et en fait, je pense qu'on n'est pas de trop. C'est-à-dire que je vous explique. Dans votre quotidien, on croise toujours des jeunes. C'est pas évident, c'est pas facile d'aborder des jeunes, mais en même temps, vous devez garder à l'idée que si à chaque fois que vous croisez un jeune et que vous pouvez lui insuffler quelque chose qui va l'aider à faire un pas de plus dans la bonne direction, ben faites-le. Je pense qu'aujourd'hui, l'éducation nationale ne suffit même plus, et je sais même pas les projets qu'elle a prochainement. Et si vous savez très bien que ce sont des sujets compliqué ou dès qu'on commence à mettre l'éducation morale et civique, on a l'extrême gauche qui a ses opprimés de service et qui veut surtout qu'on touche à rien. On a l'extrême droite qui crie au scandale parce qu'il dit c'est pas à l'éducation d'éduquer, c'est aux parents et on s'en sort pas. Donc finalement la société c'est nous. Et comment nous, chacun d'entre nous, peut faire en sorte que partout il éduque, partout il essaye de faire en sorte de faire un pas de plus aux jeunes. Moi, je le fais, ça fait partie de ma vie depuis que j'ai 16 ans. Mais en même temps, comme je le disais ce matin, personne d'entre nous ne sera épargné si on se retrouve dans une société où il y a une génération qui n'est pas consciente à la fois des valeurs dans lesquelles on vit, qui n'est pas consciente des enjeux, qui peut basculer dans l'extrémisme. Et l'imam Chalgoumi le disait tout à l'heure, une majorité pacifique n'a jamais empêché la barbarie d'agir. Donc voilà, moi je crois en l'humain, je crois aux associations, je pense que chacun d'entre nous a le devoir d'éduquer partout où il est, a le devoir de conscientiser, a le devoir d'œuvrer, a le devoir d'aller dans les écoles et de dire non, vous devez faire plus, a le devoir de pétitionner, d'obliger les pouvoirs publics à réinstaurer un certain nombre de valeurs au sein de l'école qui ont pas de possibilité de vivre dans les familles, même si je pense que la première chaîne éducative, c'est les parents. Mais l'école, vous le savez autant que moi, c'est extrêmement compliqué parce qu'elle est complètement idéologisée. Et en plus, ceux qui donnent des leçons dans l'école sont ceux qui préservent leurs enfants de tous les fléaux possibles et imaginables. C'est-à-dire que leurs enfants sont éduqués, leurs enfants ont accès à la culture, leurs enfants ont accès au beau, leurs enfants ont un avenir. Mais pour les enfants des pauvres, des arabes et des noirs, ils ont toujours des bonnes idées pour que ces enfants-là restent à quai. Et c'est insupportable. C'est insupportable. Si, on l'a vécu, ça continue. C'est pas parce qu'on en extrait trois quelque part. Moi, je voudrais que ce soit général. Je voudrais que ce soit la règle. Je voudrais qu'on arrête les ZEP, les US, les REP et qu'on finisse par faire en sorte que si on n'arrive pas à casser les ghettos, eh ben, qu'on puisse mettre des cars pour que les enfants se mélangent dans les centres-villes. Parce que c'est un vrai problème. Et je le vis encore avec ma petite fille qui a 12 ans et demi en collège. C'est quand même la quatrième génération. Impossible de la mettre dans le privé et je l'aurais mis dans le privé volontiers. Et la maman de sa copine qui me dit non, mais il ne faut pas mettre les enfants dans le privé parce qu'il faut que vous alliez faire diversité dans le public. Je lui ai dit non merci, ma génération a fait diversité, à votre tour, allez faire diversité dans le public parce que nous on n'a pas eu de chance, et bien j'aimerais que mes petits-enfants en aient et qu'ils accèdent dans des écoles où il n'y a pas des profs qui manquent, où il n'y a pas un déterminisme social, où ils ne sont pas 30 dans une classe, etc., etc. Nous aussi, enfants des classes populaires qui avons eu des enfants et des petits-enfants et qui avons l'esprit critique et qui nous sommes conscientisés, on a envie d'égalité pour nos enfants. Donc moi je pense que l'action d'éducation, elle doit être partout et pas uniquement à l'école.
Bravo. Par rapport à la question de monsieur. Une autre question, madame ?
On n'est pas d'accord. C'est pas grave.
Chalgoum.
Vous avez dit le plus grand fléau par rapport aux enfants, c'est Internet. Mais pas que par rapport aux enfants. Aujourd'hui, on a des adultes qui croient que la Terre est plate. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Donc, c'est un discours tout cuit, prêt à digérer. Et en fait, c'est le nombre qui fait que les gens y les grands comme les petits. Ça, c'est le premier point. Dans l'association, moi, je peux vous dire qu'on a reçu aussi des professeurs. On a reçu aussi des professeurs en l'art. Des professeurs dont l'enseignement a été remis en cause par justement des croyances, des vérités tout faites, et qui étaient complètement désarmés, et qui ne savaient plus où donner la tête, et qui avaient même peur, parce qu'ils ont été menacés physiquement, verbalement, et que par un cours d'histoire ou de géographie, aujourd'hui, c'est très difficile, dans certains endroits.
C'est vrai.
La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on s'est aussi occupé de jeunes gens qui étaient prêts pour partir en Syrie. La confidentialité fait que je ne peux pas dire où et quand, mais on l'a fait. Et nous n'avons pas eu que des jeunes des quartiers défavorisés. Nous avions des fils à papa, des gens qui avaient des familles et qui, par le discours idéologique des jeunes filles qui avaient des parents qui étaient en première, en terminale, qui décident tout d'un coup de porter le tchador et de se marier sur internet avec un gars qui est pour nous un mec. Moi, je l'ai vécu. Donc,
c'est vrai.
Je crois aussi, même si vous avez raison à 90%, je suis d'accord avec vous. Je crois aussi, sincèrement, je vous le dis, que ce discours qui est vrai, il y a des quartiers pauvres, il y a de la discrimination, il y a des enfants qui n'ont pas toutes les chances, etc. Tout ça, c'est vrai. Sauf que c'est un discours tout fait.
Non, c'est du vécu.
Non, mais c'est la vérité.
Non, c'est pas ça, c'est pas tout fait, c'est vécu. Ah bah oui, mais il y en a.
À se marier, elles n'arrivent pas, moi j'habite dans le secteur de Bordeaux, elles n'habitent pas dans
non.
Les femmes, elles n'habitent pas dans les
hommes. Émilie Koenig était une fille bourgeoise de Bretagne. Hein.
Voilà,
plus grande recruteuse.
Et des professeurs des armées, il y en a, et des parents qui pleurent, il y en a.
Plein.
Et les réponses de l'État, il y a des moments où je suis restée un peu derrière, parce qu'à l'arrivée, si vous avez un gamin de 16 ans qui a fait des conneries par le impossible par la police, qui est fiché S, et qui se retrouve devant le conseil départemental, enfin, pas lui, mais le conseil départemental se réunit pour trouver des solutions. Mais excusez-moi, il a plus d'avantages. On va ouvrir des écoles, on va lui trouver des places, on va lui trouver un boulot, on va aider ses parents, alors que le gamin qui sort de la campagne, de l'arborisation, de la mobilité, qui a trouvé, qui a bossé, et qui rame parce que ses parents ne veulent pas payer l'université, lui, il n'a rien. Donc, la discrimination, elle se fait dans l'autre sens.
Oui, mais je vais réagir.
Ce que je veux dire, c'est que le fait de cataloguer les gens pauvres, les gens...
Non, mais c'est... Vous savez, moi, j'interviens à Fécamp, au Havre, à Vaux-en-Velin et à Creil. Donc, vous voyez la diversité des territoires. Et on sait très bien que, par exemple, à Creil, les deux jeunes filles que j'ai qui sont converties, elles ne viennent pas des quartiers. Donc ça, on le sait aussi. Ça, on en est conscient. Ce que je veux dire par là, c'est que on se demande pourquoi aujourd'hui, justement, la poussée de la pratique religieuse chez des jeunes issus d'origine maghrébine est plus puissante que ma génération et celle de nos parents. C'est parce que il y a une question sociale qui s'est ajoutée à une question identitaire, s'identifier en appartenance communautaire. Et c'est plus exacerbé quand on en vient et on se demande pourquoi. On reproche pas d'être musulman, c'est pas un problème, puisque la laïcité, elle, c'est pas ça. C'est comment on peut sombrer dans les discours intégristes et de l'assignation communautaire identitaire. Moi, une jeune fille qui s'appelle Caroline, qui veut devenir djihadiste, elle va pas me dire « Zora, t'es maghrébine, tu renies tes origines », elle s'en fout. Tandis que l'assignation identitaire, elle est communautaire. Et c'est ça qui pose problème. Comment on a reculé sur l'intégration? Comment on a fait en sorte que des jeunes ne deviennent pas français de cœur, d'âme, d'esprit, de pensée? Et c'est ça qui est intéressant à voir dans la progression. Mais oui, parce que ça pose question quand des jeunes disent « Ouais, mais moi, je ne ferai pas de mariage mixte ». Alors que ma génération, vous imaginez, en 84, je fais un mariage mixte avec un homme qui est de père juif et de mère catholique. En 1984, C'est-à-dire à l'époque, nous, c'était même plus du féminisme, c'était on était super loin. Donc aujourd'hui, on vous explique que voilà, on est assigné à notre identité parce qu'on est traître, vendu, etc. Est-ce que c'est normal que la troisième génération issue de l'immigration, qui pourrait être nos petits-enfants, considère que nous aurions trahi je ne sais quoi? Mais on ne trahit rien du tout, on est nés ici. C'est-à-dire qu'on nous nie la possibilité d'avoir une identité. Donc c'est de cette population issue de l'immigration dont je vous parlais, qui n'exclut pas la ruralité dans un autre domaine. C'est-à-dire, les problématiques sociales, elles produisent à la fois des inégalités pour tous, mais pas les mêmes, et pas sur les mêmes territoires et les mêmes genres. Mais elles se valent tous. La politique de la ville est arrivée en ruralité parce que les indicateurs sociaux sont devenus les revenus. Et là, du coup, ça a englobé la ruralité. Et on le doit d'ailleurs à François Hollande, parce qu'avant, ça excluait la ruralité. Donc, ce que je veux dire, c'est que la question de la pratique de l'islam et la question de la revendication communautaire et identitaire, elle vient pas d'une jeune fille qui vient de se convertir, puisque elle, son identité, elle est française. Elle s'est juste convertie à une religion. Tandis que moi, je vous parle de jeunes qui sont même pas parfois pratiquants musulmans, mais qui ont une forte présence, conscience identitaire, et qui voudraient qu'on ne sorte pas de cette identité. Regardez dernièrement la Pichaina, faire ta française. Qu'est-ce que ça veut dire faire ta française? Quand on dit à une fille, tu fais ta française, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez me le décrypter? Faire ta française, c'est quoi? C'est tout ça qui est quand même important à souligner et qui fait qu'on a quand même reculé par rapport à ma génération dans l'intégration dans ce pays, tout en essayant de comprendre d'où ça vient et que les questions sociales, on ne peut pas les exclure.
Merci Zan. Alors si vous avez des questions, alors questions courtes, et puis on va essayer de faire des réponses courtes puisque l'heure tourne.
Oui. Voilà.
Alors, il y avait une dame qui m'avait...
Moi, c'est juste pour parler de l'éducation nationale, mais je pense à l'éducation populaire aussi, qui est dans une situation catastrophique. J'ai jamais entendu parler de l'éducation populaire, mais c'est quelque chose qui est
impossible.
Défendre des actions sur la laïcité dans des quartiers où c'est difficile, et même avec des formations pour lesquelles ils sont rétifs, parce qu'il y a le sentiment qu'il y a de l'intolérance, la laïcité c'est l'intolérance, que la laïcité c'est le racisme, et que ou alors qu'ils ne se sentent pas capables de tenir tête à des gamins qui ont même 12 ans et qui leur renvoient le fait qu'on tient un discours raciste parce qu'on parle de laïcité. Je pense qu'il y a un grand champ d'action aussi, parce que là, ce sont les animateurs socioculturels, ils sont au cœur des quartiers, ils sont en dehors du temps scolaire, donc ils sont sur les temps de loisirs, et on est censé aussi faire une offre culturelle, et là, pour moi, il y a un enjeu très fort dont le ministère ne se saisit absolument pas. La caisse d'allocation familiale qui finance les centres sociaux a beau afficher, il y a eu des tels discours sur les charges de laïcité, de attention tel mot, etc., finance, valide les projets centres sociaux, mais en réalité n'ont pas du tout envie qu'on parle de laïcité, enfin pas qu'on parle, qu'on mène des actions de laïcité sur garçons-filles, etc., les égalités garçons-filles, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet important, et pour moi, je pense qu'on partage aussi, même si chacun doit faire sa part, je pense que s'il n'y a pas une forte mobilisation du pouvoir public, on n'y arrivera pas pour imposer des choses.
Imam Chelgoumi, alors vous notez ça aussi, vous? Quand je vous ai demandé qui vous aide, les pouvoirs publics, tout ça, vous avez des soutiens? Vous êtes tout seul? Vous êtes dans votre combat?
Non, quand même, heureusement, la République, elle me soutient, sinon ça fait longtemps que je suis parti. Je parle de ma vie. Vous savez, il y en a, non. Heureusement, de droite ou de gauche, de toutes les colères, surtout les citoyens. Vous savez, toujours, quand je retourne à la mosquée le matin, ils me ramènent des courriers, j'entends je vois des lettres. Et des noms de villes, je ne connais même pas. En France, je suis tel village, je fais l'armée, je suis prêt à vous protéger, je suis tel. C'est ça qui me donne aussi la force. Par rapport à l'autocritique, comment il peut accepter? C'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'on a fermé la porte de l'ijtihad. La porte de une nouvelle lecture. Comment la reconnaissance, regarder les lectures. Parce que le Coran, le Saint, le Coran, il a plusieurs lectures. Mais nous, on est capable. Aussi, la République, elle est capable d'infirmer telle lecture, elle est acceptée, telle-là, elle est non. Facile, il y en a. Il y en a des lectures qui sont adaptées. On peut l'adapter au XXIe siècle. On ne peut pas le reculer à l'âge de pierre, au XIVe siècle. Possible, ça, il faut un travail à faire, il faut de volonté, il faut des hommes, comme elle a dit aussi Jocelyne, elle a dit une belle chose, si les hommes ils veulent vivre ensemble, il faut juste seulement la volonté. C'est la même, il faut la volonté. Vous savez, quand l'équipe perd son âme à Charlie, le premier, j'étais sur le lieu, j'ai dit ce sont les martyrs de la liberté. Deux jours après, j'ai eu Daesh, l'État islamique, ils ont envoyé une vidéo. Ils ont dit, allez, on veut la tête de Chalgomi. Ça veut dire qu'on les dérange. Moi, juste que j'ai la parole. Elle a dit, de Stello. Les paroles, on le change. Les paroles, elles peuvent changer aussi. L'art par l'art, le dessin par le dessin, pas par le son, par l'amour. Je l'explique. Bout un simple dessin, on décapite quelqu'un, oh mon Dieu. Et c'est là, malheureusement, un travail au sein, je pense, des parents, les religieux aussi, pour demander, on a le droit de critiquer. Dans le Coran, il y a des critiques. Dans le Coran, il existe des critiques, des lectures. Comment il critique le prophète, comment il critique Dieu même. Si on arrive à donner cette jeunesse, et les parents, il y a un travail aussi pédagogie, comme quoi on a le droit de critiquer l'islam. Il y a le droit de le blasphème, oui, on a le droit de le blasphème. On a le droit de critiquer, de dire telle chose. Je pense que si on arrive à faire ça, on peut éviter cette jeunesse de dérive et d'essai.
Dernière petite question, mais petite, hein, petite.
J'ai plein de choses à dire, mais je vais être court.
Voilà, ça c'est une bonne chose.
Les brefs, si bon, des fois bon. Les brefs, si bon, des fois bon.
J'ai pas compris.
Donc je vais être bref.
D'accord, allez-y.
Ah, d'accord.
Alors, Montesquieu avait écrit
Oula, ça commence
un être humain avant d'être français.
Montesquieu a dit je suis un être humain avant d'être français. Voilà. C'est pour que tout le monde entende.
Ma question est simple. Ça serait bien qu'on efface toutes les religions pour éviter les guerres depuis des siècles.
Ouais. Ça, c'est bien ça. Ouais, super, sort ta baguette magique. Génial. Est-ce que quelqu'un a une baguette magique, s'il vous plaît? Oh, je suis preneuse.
Non, mais moi, j'avais juste
je prends la responsabilité de la baguette magique.
Là, je suis un homme de foi. Moi, je défends la place de la religion. Mais elle est dans la foi, dans l'humain. Pas l'apparence, pas tout si sec. L'humanisme, que vous le croyez, il est sacré. La vie humaine, il est sacré. La place de l'Église, elle a sa place. Le judaïsme, l'islam, d'autres religions. Mais ne sont pas en contradiction aux valeurs universelles. Mais de faire la laïcité comme une guerre contre les religions, je pense, on risque souvent de le pousser vers l'extrême. Ça, c'est mon point de vue.
Oui, mais pardon, il y a aussi, quand on ne croit pas, on n'a pas la foi.
Oui, vous avez la foi. On croit à l'humain.
Pardon, on peut être humaniste, on peut être généreux.
Oui, bien sûr.
Athée, absolument.
Athée. Et oui. Bien sûr, heureusement.
Vous, vous ne croyez pas à Dieu, mais je crois en vous. Moi.
Il n'y a que les, croyants qui sont des gens bien.
Vive le Chili.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
C'est excellent.
Une autre
Merci.
Petite question, et puis ça sera tout.
Ah, là.
Ah, ouais.
Deux, là, il en reste deux.
Il y en aura deux. Ouais.
C'est une question sémantique. Je vous ai entendu au tout début de...
Ah, j'ai peut-être fait une faute.
Ah oui.
Oui.
Alors, si on veut lutter pour la laïcité, je crois, et d'abord les journalistes, parce qu'ils sont tombés
oui,
presque tous là-dedans, cesser avec l'islamophobie.
Non, mais c'est parce que vous avez peut-être mal entendu, j'ai dit simplement comment sortir de ce schéma où certains veulent nous faire croire que parler de la laïcité ou mettre en pratique la laïcité, c'est être islamophobe ou aller dans
l'islamophobie. Voilà, parler pour les autres.
Je parlais pour les autres, comme souvent les journalistes devraient faire.
Et d'ailleurs,
parce que moi, je ne suis pas expert en rien.
Et d'ailleurs, je viens de recevoir sur Twitter en ce moment il y a une conférence qui s'appelle Décolonial. Et donc, évidemment, si je vous donne en mille le titre, alors le titre, c'est Semaine décoloniale, donc je ne vous fais pas de dessin. Et juste après, la fiche d'après, c'est islamophobie et laïcité, avec évidemment des femmes complètement voilées, etc. Donc, vous voyez, ils se trompent.
C'est pas un journaliste qui a écrit la fiche.
Voilà.
Non, mais il n'y a pas de souci. On est là pour échanger.
Et la dernière question.
Et la dernière question, pardon.
Moi, j'ai deux choses à dire. Il y en a une qui risque d'être longue. Peut-être on la fera à part.
Ouais, à part.
Ouais, d'accord.
Ouais.
Je viens d'être accusé d'islamophobie dans mon école. Je suis enseignant.
Vous n'êtes pas le chef.
Je suis enseignant depuis 25 ans. J'ai toujours vécu en banlieue. Je n'enseignais que dans les quartiers difficiles, REP, etc. Et d'ailleurs, les écoles sont bien plus difficiles hors REP qu'en REP. Je vais faire le témoignage court. Quand j'étais en banlieue parisienne, j'étais à Torcy. C'était la première mosquée fermée après Charlie, puis après le Bataclan. Ça faisait des années que j'alertais la police, la mairie, l'éducation nationale, parce que j'entendais le discours des grands frères, ce qu'ils venaient dans la cour d'école, et j'entendais ce qu'ils disaient. Et moi, j'ai essayé de mettre en œuvre ce que vous dites sur la laïcité. Il n'y a pas de cours sur la laïcité, le vivre. On est allé voir Molière à la Comédie Française, j'ai eu 20 refus de mon directeur, de mon inspecteur. Non, on les emmenait voir des groupes de rap, des groupes de machin.
Mais voilà. Merci, ça n'a pas changé. Voilà.
Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti de mon école, j'ai traversé le trottoir, j'ai donné une invitation à aller à la Comédie Française à mes familles, voilà. Parce que c'est moins cher le dimanche, les matinées, c'est moitié prix. Alors, j'avais demandé le soir, on m'avait dit non, c'est hors temps scolaire, on te refuse. Raison invoquée, tu vas briser l'égalité républicaine, puisque comme c'est facultatif, ils ne pourront pas tous venir.
Quel ratio.
J'ai donc répondu, l'égalité républicaine, c'est que personne n'y aille. Ils sont tous venus, sauf
le dimanche.
Et je vous raconte juste, c'était le bourgeois gentilhomme, 3h30 de pièce. Ouais. La moitié de mes élèves ne parlaient pas un mot de français. Le lundi matin, une petite du Sri Lanka, pas musulmane, comme ça j'écarte le sujet, est venue me voir, elle m'a tapé sur l'épaule. Sa grande sœur avait dû lui dire 3 mots, elle a dit « quand retourne ?» La beauté du théâtre, les costumes, les chants, les danses, le français.
C'est ça la promesse républicaine. Bravo.
C'est ce que... Bravo.
Bravo. Voilà.
Et vous, c'est en résonance avec ce que disait Zora sur ce que chacun peut faire à sa place. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Imam Hassan Chalgoumi, d'être avec nous. Merci, Zora Habitant, bien sûr.
Merci
l'échange peut. Et merci à vous d'avoir bravé la chaleur. Les livres sont disponibles. Il n'y a aucun souci pour approfondir. Merci beaucoup.
Bien sûr.
Situation un peu difficile.
Ah ouais.
Allez-y d'abord.
Bon, moi je crois que je vais voler ça. Oui.
Ce projet, c'était des mécènes style L'Oréal, machin, qui donnait de l'argent.
C'était des enfants
qu'on prenait dans les banlieues, qu'on emmenait une fois par semaine l'Opéra Bastille.
Ah bah oui.
Avec un projet.
Bah oui.
C'est-à-dire, ils avaient un prof de musique, un prof de chant, un prof de danse et un prof de théâtre. Qui a tour de rôle, et à la fin de 10 mois, j'ai accompagné des mots, c'est pour ça que je peux en parler. Alors évidemment, la personne qui exécutait tout ça, elle a pris sa retraite. Je ne sais pas si ça continue.
Ça fait du bien.
C'était un projet. Alors, il y a des gosses.
Vous savez, tout ça c'est aussi pour payer notre pétrole et nos histoires moins chères. Hein.
On parle des dinosaures, de l'humanité.
Et je suis galère, quoi. Parce que elle est, comme ma belle-fille est croyante, etc. Et je suis laïque, quoi. Pour trois trucs, quoi. Non, ça sort. Bah,
moi, je comprends.
Mais par contre, c'était pour la culture. Oui, mais il y a plein de musulmans qui font ça. Qui ne mangent pas de porc, qui font ramadan et qui font trois trucs.
Que la terre était si bizarre, en fait, il y a 6 000 ans et tout ça.
Non, imaginez comment des gens ils imaginent que la terre elle est plate. Est-ce que c'est possible ça en 2023 et pourtant?
Eh bien,
et si, il y a des dingues.
C'est un peu ça.
Eh bien, il y a des
dingues. Parce qu'à un moment, ça avait reculé.
Il y a des gens battus, Non mais c'est vrai.
Le cerveau, il est fait pour ça.
Voilà, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens
Et là, le cerveau, il faut qu'il
fasse. Regardez les manipulateurs pervers. En religion, il y a bien des manipulateurs pervers quand on graine des gens dans des trucs.
Mais... Non mais je suis d'accord, quand on souffre...
Ça fait partie de la crise d'identité. L'individu, l'ado, c'est un système personnel. Comment vous avez eu la force, le courage que j'ai eu, et comment d'autres n'ont pas eu.
C'est-à-dire
souvent aussi, des parents, un alphabet,
mais
enseignants, mon père, aussi. Parce que je pense qu'il faut regarder autour. C'est une problématique. Non, j'ai noté que vous avez une société, on l'a fait tous ensemble. Quand vous avez dit ça, ça m'a fait penser à l'histoire du village.
Oui, c'est ça.
Tout le monde s'en occupe.
Mais oui.
Et c'est ça.
Et là, en fait, c'est ça qui peut nous sauver.
Même au 20e,
c'est que tout le monde s'occupe de ça. Voilà. En fait, je ne vois pas d'autre issue, moi. Je ne vois pas d'autre issue.
Le deuxième sujet.
Non, mais,
et je la connais, notre
extrême. Ah non, mais moi, je lutte contre eux. Vous ne pouvez même pas imaginer.
Dessous, je la connais. Ils sont
tarés.
Et le deuxième.
Ça, c'est évident, mais je veux dire qu'ils sont terribles.
Ah oui, mais bien sûr, mais je
ils
lutte contre eux.
C'est monde, hein.
Pourquoi j'ai fait le discours tout à l'heure? Parce que je me suis dit.
Vous avez très bien entendu.
Je me suis dit qu'il fallait garder le cap.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'on ne combat pas des ennemis avec des ennemis.
Oui, c'est ça.
Parce que moi, je suis en train de voir tous les cabans basculer, là. Et je leur dis, c'est pas parce que tu as vécu un truc perso que tu dois.
On était d'accord.
Bah oui,
on était d'accord.
C'est dangereux.
Le président de la LICRA 47 d'Agen.
Ah, d'accord.
Son épouse, et nous on est de la LICRA.
De la LICRA Agen, là,
avec d'accord. Une partie de l'éducation nationale.
J'ai la LICRA Agen en porte.
j'ai voulu intervenir. Moi je pense qu'il y a un des leviers, il y en a plusieurs, effectivement, par les pouvoirs publics, mais c'est aussi l'effet miroir.
Oui.
Je pense qu'il manque considérablement, c'est ce qui a été loupé, et ça, il faut insister là-dessus, parce qu'il y a les jeunes, pardon, hein, moi je n'ai rien contre l'imam, mais on ne peut pas les
faire. Ils ne s'identifient pas.
Ben non, ils ne parlent pas moitié français.
Mais ils ont eu Tariq Ramadan, je crois que c'était mieux.
Non,
et les joueurs de foot, Zora.
On ne va pas tomber dans les extrêmes, pardon, Zora. D'accord. Et c'est ça qu'il faut.
Et en même temps,
ça manque un peu.
À parler de la laïcité dans l'un des établissements.
Aucun problème.
Je vous laisse mon adresse.
Oui, mais en même temps, je vais répondre parce que c'est important ce que tu dis, parce que tu vois, il n'y a pas d'exemplarité. Mais le problème aussi, c'est que les musulmans, ils ne veulent pas... Regarde le CFCM, New OIF, c'est la guerre permanente. C'est une religion qui n'est pas verticale, il n'y a pas de...
On a une convention qui existe.
Tu vois, il n'y a pas... Le Chili du Maroc, avec la Tunisie, ça ne va pas. À Cré, ils ont 8 mosquées dans une toute petite ville. Pourquoi? Parce qu'il y a la mosquée turque, la mosquée marocaine. C'est un bordel.
Mais c'est au-delà de ça.
Tiens, c'est un bordel au départ.
Non, mais c'est au-delà de ça, si tu veux.
Oui, mais en même temps, au-delà de ce qu'il incarne, je vais te dire, c'est aussi parce que c'est un homme de paix qui est allé en Israël, etc. Et ça, c'est rédhibitoire.
C'est comment on a été.
On parle d'identité.
Bon, admettons. Oui, alors même
ça, c'est
moi.
C'est important pour les jeunes.
Et ben moi, ils ne s'identifient pas à moi. Moi, je suis une traite, une vendue. Si, moi, j'ai été menacée sous protection policière. Donc, tu veux t'identifier quoi?
Tous les deux, je sais.
Non, mais tu vois, tu veux qu'on s'identifie à quoi?
Non, mais je pense qu'il manque.
Aux décoloniaux, à Houri Abou Teldja, ils s'identifient. dans le sens. Eh oui, eh ben aussi.
Mais dans leur famille, ils peuvent ni boire.
Non, mais sans déconner. Hein. Si t'as une idée, je prends.
Dans leur famille, ils ne peuvent.
Non, on va se trouver au milieu.
Mais quoi ?
Il
n'y
en a pas assez.
Mais on en est. On est beaucoup.
Ils font ça, des histoires de vie.
Oui, mais non, je suis vendue pour eux.
Et discuter.
Non, je suis vendue sur Twitter. En vérité, dans la vraie vie, la barbe jusque-là, oh, ils ont 8 ans, on fait un selfie. Ils sont adorables. Moi, je vais à Bonvelin. Depuis 2014 que je vais à Bonvelin. Tranquille, tout le monde me dit ah, tu vas à Bonvelin. Zéro problème à Bonvelin. En fait, la vraie vie, les gens sont adorables. Je n'ai aucun problème. J'arrive à Creil, je vais manger un burger avec les jeunes. Évidemment, le burger du le kebab du coin. Et j'arrive, et le serveur, il a la barbe jusque-là. Ça l'a fait à fond. Il a dit oh, il y a Zora Piton, mais qu'est-ce que vous faites là ? Je dis, bah, je fais une action avec les jeunes. Voilà. Et le mec, il me dit, bon, je ne suis pas toujours d'accord avec vous, mais il y a un truc qui est vachement bien chez vous, c'est que je sais que vous êtes toujours sur le terrain avec les jeunes. Et ils sont adorables. Mais je n'ai aucun. Oui, mais après, sur Twitter, il n'y a pas l'effet miroir. Hein.
C'est là.
Oui, voilà. Non, si, sur le terrain, c'est ce que je dis. L'espoir, il est sur le terrain. Mais bien sûr. Ils ont envie. En fait, ils ont envie.
Ils voient que vous avez la même histoire et que pour